Je vais vous parler donc de la fierté dans le travail, le sous-titre « Une valeur indispensable ». Et bon, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, mais je voudrais en fait analyser cette fierté dans le travail dont on parle de moins en moins, parce que peut-être que la réalité elle-même est de plus en plus difficile à rencontrer. Alors, je crois que pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut placer la question d'un peu haut, enfin dans un contexte assez large. C'est-à-dire que se rendre compte que le travail possède, au-delà de ses objectifs immédiats, c'est-à-dire on travaille pour gagner de l'argent et on gagne de l'argent pour s'acheter un certain nombre de biens, etc. Mais le travail possède trois grandes finalités. Et donc, on peut dire qu'il a trois grandes fonctions. Il sert à trois grandes choses. D'abord, c'est par exemple le sens de l'analyse de Marx et de Hegel, de certains philosophes. Le travail, c'est un mode de transformation du réel. C'est-à-dire que par son travail, l'homme, l'être humain, transforme la réalité de manière intelligente. C'est la raison pour laquelle on a parfois du mal à considérer qu'il puisse y avoir du travail chez les animaux. Même si les animaux, évidemment, transforment la réalité. Par exemple, un castor construit un barrage. Des éléphants peuvent évidemment bouleverser leur milieu naturel, etc. Mais on considère que cette transformation, elle est intentionnelle, consciente chez l'être humain, alors que ce n'est pas le cas ou difficile de repérer que ce soit le cas chez l'animal. Bref, cette transformation du réel, c'est une dimension très importante parce que ça signifie que grâce au travail, l'être humain, il a un rapport aux choses, il a un rapport à quelque chose qui n'est pas lui-même, qui est à l'extérieur de lui. Et donc, ça, c'est une dimension très importante, on va le voir justement par la suite, c'est-à-dire la capacité que nous avons de changer les choses, même si c'est un niveau très modeste, hein. C'est Hegel, le philosophe Hegel, qui rapporte que l'un des premiers motifs de fierté de l'enfant, c'est de jeter une pierre dans l'eau pour constater l'effet que son geste produit dans la réalité. C'est-à-dire, il fait un rond dans l'eau simplement parce que lui, il a jeté une pierre. Bon, c'est pas grand-chose, évidemment, puis c'est pas productif, c'est un jeu. Mais Hegel explique que la conscience vient justement de ce type de geste. C'est-à-dire que nous agissons, et nous agissons de telle façon que la réalité n'est pas la même que celle qu'on avait rencontrée avant, et que grâce à notre action, la réalité peut être transformée. Alors on verra justement que c'est l'un des motifs fondamentaux de la fierté dans le travail, ou par le travail, que de pouvoir ainsi transformer la réalité qui nous entoure. Donc on pourrait dire que la première finalité, enfin c'est pas la première au sens, disons que c'est la plus importante, je crois que les trois sont également importantes. Enfin, la première, disons, que l'on pourrait énoncer, la première finalité ou la première fonction du travail, c'est la transformation du réel, la transformation du monde. La seconde, le travail est toujours un phénomène social, c'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille jamais tout seul. Même si on travaille, disons, matériellement tout seul, comme par exemple quelqu'un qui est dans un atelier tout seul ou même chez lui. Mais dans la mesure où c'est un travail et pas simplement un jeu ou une activité de loisir, comme par exemple je pense au bricolage, le travail a toujours une dimension sociale parce que bon, il y a une rémunération, parce qu'il y a tout un réseau, hein, même quand on travaille tout seul, on travaille finalement en réseau, surtout d'ailleurs aujourd'hui. Et si je vous parle de cela, c'est parce que la seconde fonction ou la seconde finalité du travail, c'est la reconnaissance par l'autre. Travailler, c'est être regardé, reconnu par autrui. Chez l'être humain, c'est fondamental. Un être humain ne peut pas réellement accomplir sa vie s'il n'a pas sur lui, alors ce n'est pas un regard malveillant, un regard d'envie, mais un regard de reconnaissance, c'est-à-dire qu'autrui reconnaît que quelqu'un a fait ceci. Le travail, c'est un fait social et on peut dire qu'il a toujours une utilité. Et il faut prendre utilité ici dans un sens noble. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des sens dégradés d'utilité parce qu'on est dans un monde utilitariste qui tend à tout rabattre sur la valeur d'utilité. Mais il y a un sens noble de l'utilité, c'est-à-dire, en fait, le travail que je fais, c'est un travail qui, en effet, prend place dans quelque chose qui me dépasse et qui est la société. Et aujourd'hui, dans la mondialisation, cette société, elle est mondiale. Il y a qu'en fait, nous sommes un tout petit élément dans un ensemble qui est considérable, qui est la société et qui est au-delà de notre société, le monde. Donc, la première finalité, la première fonction, c'est la transformation du réel. La seconde, c'est la reconnaissance par autrui. Je travaille, donc je suis reconnu. Le travail, c'est un marqueur d'identité. Au point, vous savez que pendant très longtemps, jusqu'à une date assez récente, l'identité réelle des êtres humains était marquée par leur travail. On disait le boulanger, le menuisier, le maréchal ferrant. C'est-à-dire qu'en fait, plus que le nom propre ou le prénom, eh bien, l'être humain était défini par son activité. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors même si, évidemment, nous sommes dans un monde qui tend à remplacer, je crois qu'on bon, on y reviendra, nous sommes dans un monde qui tend à remplacer le métier par l'emploi, ce qui n'est déjà pas un bon signe. Mais il est vrai qu'avec l'emploi, cette marque d'identité, elle est beaucoup moins forte. Hein, parce que autant on peut s'identifier à son métier, puisqu'on est, finalement, on est avec et on meurt avec, tandis qu'un emploi, on peut le changer au cours de la vie, et puis même on peut le perdre. On ne perdait jamais son travail. Vous voyez, quelqu'un qui était paysan, on ne peut pas imaginer qu'il perdait son travail de paysan. Il était pour sa vie paysan. Donc c'était un marqueur d'identité très profond. Alors, même si les choses ont changé, malgré tout, cette idée que nous sommes reconnus par notre travail, donc que le travail a une fonction sociale et psychique très forte, ça c'est quelque chose qui est resté. Et puis, la troisième fonction, la troisième finalité, c'est que le travail est un moyen indispensable, un facteur indispensable d'estime de soi. C'est-à-dire que ça se rapporte aussi à soi. Ça se rapporte pas seulement au réel. Donc vous voyez, le travail il est inscrit dans une sorte de triangle. Il y a le monde, les autres et soi-même. Et par rapport à soi-même, travailler, c'est en fait se donner le moyen d'avoir conscience de soi, et en même temps d'avoir une conscience positive de soi, ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie l'estime de soi, et qui est quelque chose de fondamental pour construire une existence et pour mener une vie honnête, vous voyez, d'être humain, c'est-à-dire cette conscience de soi qui fait que je travaille donc je suis, et que dans la mesure où ce que je travaille, ce que je fais dans mon travail est bon, est reconnu par bon par autrui et par moi-même, bien cela me donne une estime de soi qui fait que je travaille d'autant mieux. Donc il y a un cercle vertueux dans le travail, dans la mesure où il me donne l'estime de moi-même et que par cette estime, je me donne les moyens de travailler davantage. Alors, si je dis cela, si vous voulez, pour replacer la question très particulière de la fierté dans un contexte plus général, c'est que très souvent, aujourd'hui, on est tenté par une conception purement économiste des choses, purement utilitariste, c'est-à-dire le travail, bon, c'est les besoins, c'est l'argent, ce qui est vrai. Et en même temps, il ne faut pas réduire le travail à cette dimension-là. Je prends l'exemple du chômage, parce que le chômage, c'est la perte de l'emploi, donc la perte du travail. Le drame du chômage est beaucoup plus grave que la perte d'argent, qui est déjà immensément grave. C'est-à-dire perdre un travail, c'est perdre un certain type de vie, un mode de vie, la capacité à acheter des biens, etc. Mais on n'imagine pas la gravité morale, de la perte morale de quelqu'un qui a perdu son travail, parce que, comme je l'ai dit, étant donné que le travail, c'est à la fois la transformation du réel, le moyen d'être reconnu par autrui et le moyen d'avoir une estime de soi, celui qui perd son emploi, eh bien, il perd contact avec le monde, contact avec autrui, et il est, disons, il perd l'estime de lui, il doute de lui-même. Vous savez, il y a une sorte de mécanisme qui est tragique, qui fait que beaucoup de gens qui perdent leur travail culpabilisent, au sens qu'ils rapportent à eux-mêmes la responsabilité, la faute, alors même que, évidemment, cet événement est dû à des facteurs qui les dépassent largement, hein, les mécanismes économiques, les délocalisations, les spéculations financières, etc. Donc l'individu, il est pris dans des tourbillons qu'il ne maîtrise pas du tout. Or, il est frappant de voir à quel point nombreux sont les chômeurs qui se mésestiment, qui perdent complètement confiance en eux parce qu'ils ont perdu leur travail. Mais cela nous dit justement que perdre son travail, c'est perdre davantage que son travail. Perdre son travail, c'est perdre justement à la fois contact avec le réel, contact avec autrui, puisque quelqu'un qui perd son emploi, il est dans un processus de désocialisation, il n'a plus les collègues, il tend à être replié de plus en plus sur lui-même, etc. Donc finalement, perdre son travail, c'est voir disparaître les trois finalités qui donnent du sens à la vie. Voyez. Qu'est-ce qui donne du sens à l'existence humaine ? Sinon, d'avoir des contacts les plus riches possibles avec le monde, d'avoir les contacts les plus riches possibles avec les autres, et puis en même temps, avoir une estime de soi qui n'est pas de la vanité, voyez, ce n'est pas de l'orgueil non plus. L'estime de soi, c'est se reconnaître comme digne à l'égal de tous les autres êtres humains, et c'est finalement mener une vie, disons, d'honnête homme. Un honnête homme au sens où on le donnait à l'époque classique, c'est-à-dire un être humain qui accomplit donc sa vie humaine. Il est d'ailleurs frappant de voir à quel point les trois pertes auxquelles je fais allusion à propos du chômage, à savoir perte du contact avec le réel, perte du contact avec autrui et perte de la conscience de soi, c'est exactement analogue à ce qui se rencontre en psychiatrie, dans les psychoses. La psychose, qu'est-ce que c'est ? C'est l'état de l'individu qui a perdu la conscience du monde, qui a perdu le rapport, la relation avec autrui, et en même temps qui a perdu le rapport conscience avec lui-même. Voyez, c'est ça, la psychose, c'est une perte de relation. Et les relations, si vous voulez, il y en a de trois types. Les choses, le monde, alors ça peut être des choses abstraites, comme ça peut être des choses très concrètes. Vous savez d'ailleurs que c'est ce qu'on appelle l'ergothérapie, c'est tout un ensemble de procédures et de méthodes qui consistent à essayer de soigner, parce qu'on ne guérit pas vraiment les psychoses, mais soigner certains cas de psychose en remettant les individus en contact avec les choses, en faisant des choses très simples, ça peut être de la pâte à modeler, des petits travaux de menuiserie, etc. Mais c'est très important ça, le contact avec la matière, le contact avec les objets, avec les matériaux, etc. Voyez. Donc ce qu'il y a de grave, voyez, quand on traite aujourd'hui, on dit le drame du chômage, on n'en parle que du point de vue économique. Le dommage moral, il est encore plus lourd que le dommage financier et matériel. Voyez. Et le dommage moral, il est irréparable. Il est vraiment tellement incommensurable par rapport aux dommages matériels qu'on peut dire que littéralement il y a quelque chose là de destructeur. Alors qu'est-ce que c'est que la fierté ? Puisque si je fais ce préambule, c'est pour replacer justement la question de la fierté dans le travail dans un contexte qui montre à quel point le travail est quelque chose de profondément humain et à quel point la destruction du travail est quelque chose de profondément barbare. Barbare, c'est-à-dire inhumain. Donc la fierté, c'est un sentiment. C'est-à-dire qu'on ressent de la fierté. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie. La fierté, c'est un sentiment, c'est aussi ce qu'on appelle en sociologie un habitus. Habitus, ça vient d'un mot latin qui a donné aussi habitude et qui veut dire une manière d'être permanente ou du moins assez stabilisée. Vous voyez, un habitus, c'est Bourdieu, le sociologue, qui parlait d'habitus, c'est-à-dire, en fait, à la différence, par exemple, je ne sais pas, il y a des comportements que nous adoptons de façon purement circonstancielle. Par exemple, quand nous réagissons à une situation exceptionnelle. Bon, ça n'arrive qu'une fois. Et puis, il y a des manières d'être qui sont stabilisées. Alors, elles ne sont pas permanentes, en ce sens que ça ne dure pas toute une vie. Surtout aujourd'hui, vous savez, il est de plus en plus difficile de mener des existences parfaitement cohérentes, parfaitement unifiées. Nous vivons toujours plus ou moins dans l'éclatement. Mais malgré tout, quand on parle de la fierté, il y a tout de même quelque chose qui est assez stable dans le comportement et dans l'affectivité d'un être humain. Donc la fierté, c'est à la fois de l'ordre affectif, c'est un sentiment, et en même temps, c'est un sentiment qui se traduit par un certain comportement qui est évidemment positif, hein, puisque la fierté, on pourrait la définir comme la conscience d'une vertu. C'est ça la fierté, c'est la conscience d'une vertu. Et ici, je prends vertu dans les deux sens possibles, le sens, disons, habituel, qui est celui du contraire du vice, c'est-à-dire d'un bien, et puis vertu dans un sens étymologique qui est d'origine latine, où la virtus, en italien il y a la virtu, qui renvoie à la force et à l'excellence, quelque chose d'excellent, quelque chose de très bon, de très fort. C'est ça, la vertu. Donc la vertu qui, au-delà, si vous voulez, du sens moral, vous voyez, la vertu donc qui est un mélange de bien, de force et d'excellence. Et on peut dire que la fierté, c'est la conscience de l'excellence. Alors, on peut être fier de quelqu'un d'autre que de soi. Par exemple, un parent peut être fier d'un enfant, ou un supporter d'équipe peut être fier de son équipe quand l'équipe a remporté un match prestigieux, etc. Mais il y a toujours, vous voyez, dans ces fiertés qui sont soit, disons, qui nous concernent directement, être fier de soi, ou bien soit concerne quelque chose d'autre, mais on remarque une chose, c'est que quand on est fier de quelqu'un d'autre que soi, on est toujours aussi fier de soi. C'est-à-dire que le parent qui est fier de son enfant, eh bien, il est aussi fier lui-même parce que par l'intermédiaire de la vertu de son enfant, de l'excellence de son enfant, des réussites, c'est lui-même en quelque sorte qui est fier parce que, eh bien, il se dit... c'est pas une réflexion, disons, théorique et abstraite, mais implicitement, il se dit qu'il est à l'origine de cela, vous voyez. Même chose pour celui qui est fier de son équipe. Il est, évidemment, il ne participe pas au match, mais en même temps, il est impliqué. Donc, s'il est fier de son équipe, il est aussi fier d'appartenir, par exemple, à une communauté qui a donné naissance à cette équipe. Donc, quand on est fier, on est toujours impliqué. Et même si on est fier de quelqu'un ou de quelque chose qui est extérieur à soi, en fait, la fierté renvoie toujours, au moins indirectement, renvoie toujours à soi-même. Il faut faire la distinction, je crois, très importante avec l'orgueil. Parce que dans l'orgueil, en effet, il y a une dimension qui est, on peut dire, égoïste et même violente. Il y a quelque chose de violent dans l'orgueil. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'orgueil a été traditionnellement dans la morale chrétienne dénoncé comme un des sept péchés capitaux. On ne peut pas dire de la fierté que ce soit un vice, au contraire, même puisqu'on a vu que c'était lié à la vertu, alors que l'orgueil peut être considéré comme mauvais, même si par ailleurs on peut très bien faire l'apologie de l'orgueil et de considérer qu'il n'est pas si mauvais qu'un être humain s'estime très haut, voyez. Alors, a fortiori, si la fierté est différente de l'orgueil, elle est encore plus différente, si on peut dire, de la vanité. Parce que la vanité, c'est en effet se valoriser à partir de choses qui sont misérables. Vous voyez, comme quelqu'un, par exemple, qui a une voiture qui est plus grosse et plus belle que celle de son voisin. Donc ça, c'est de la vanité, parce que ça renvoie en effet à quelque chose d'extérieur et qui ne touche pas réellement les qualités humaines. Donc, la fierté se rapporte donc à un certain caractère. Mais la fierté, c'est aussi bien, c'est de l'ordre du comportement et pas simplement, disons, du sentiment, parce que c'est à la fois quelque chose qui se rapporte à notre manière d'être, voyez, nous sommes fiers, et puis en même temps, ça nous pousse à agir d'une certaine façon. Quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un, et alors on verra ça, justement à propos précisément de la fierté dans le travail, quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui est incité à être, si on peut dire, à la hauteur de ce qu'il pense être digne de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il se fixe comme un idéal, mais c'est un idéal réaliste, hein, ce n'est pas un idéal utopique. C'est-à-dire, être fier, c'est se sentir capable de faire certaines choses, et du fait qu'on se sent capable de faire certaines choses qu'on estime belles, et bien à ce moment-là, on se hisse à la hauteur de cette beauté, à la hauteur de cette exigence. Je vais vous citer une phrase, un passage un peu compliqué de Hegel, qui fut l'un des grands philosophes du travail, et c'est un passage un peu obscur, mais en l'expliquant de deux ou trois choses, on arrive à éclaircir le tout. Hegel, pour montrer justement à quel point le travail était une formation, enfin un moyen de formation essentiel dans la conscience de soi, il disait ceci: le travail est désir réfréné, disparition retardée, le travail forme. Alors, désir réfréné en ce sens que quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un en effet qui est au-delà de la satisfaction immédiate de son désir. C'est-à-dire que la satisfaction immédiate du désir, ce serait de la jouissance tout de suite, ou le plaisir maintenant. Celui qui travaille, c'est quelqu'un qui pousse, vous voyez, qui repousse à plus tard cette exigence-là, qui est l'exigence de la jouissance, du plaisir. Et pour Hegel, si le travail est formateur, c'est parce que, et si le travail est profondément humain, c'est parce que, à la différence de l'animal, lui, qui ne connaît pas ce retardement, vous voyez, cette différence, hein, au sens de Derrida, le fait de différer, vous voyez, d'aller plus loin, de retarder, de remettre à plus tard, vous voyez. L'animal, lui, il a faim, il faut qu'il trouve sa proie ou sa nourriture, il faut qu'il mange tout de suite. L'être humain, lui, c'est quelqu'un qui est capable de remettre à plus tard la satisfaction de son désir. Et de plus, le travail est justement le moyen de satisfaire le désir. Et c'est en cela qu'il est profondément humain et formateur. Alors, Hegel poursuit: le rapport négatif à l'objet, hein, puisque travailler, c'est transformer. Transformer, c'est détruire. C'est en même temps créer. Hein. Donc, il y a là ce que Hegel appelle une dialectique. Vous voyez, ou ce que l'économiste Schumpeter, à propos de l'économie capitaliste, appelait la création destructrice. Vous voyez, l'économie, elle crée, mais elle ne peut pas faire autrement que de détruire pour créer. Hein, si vous construisez un aéroport, il faut que vous rasiez une forêt. Pour construire une route, il faut détruire des maisons, etc., etc. Il ne peut pas y avoir, dans le domaine économique, dans le domaine du travail, enfin, le seul travail, c'est pour ça qu'il est si précieux, le seul travail dont on puisse dire qu'il soit purement créateur et qu'il ne passe pas par l'intermédiaire de la destruction, c'est le travail de l'artiste. C'est pour ça que l'art est éminemment, est une activité idéale chez l'être humain. Vous voyez, un peintre, un musicien ne détruisent rien. Ils enrichissent le monde de façon brute. Tandis qu'un ingénieur, un technicien, un artisan même, il est obligé de couper, de tailler, d'usiner, de transformer. Bref, il est obligé de détruire certains matériaux pour en produire d'autres. Voyez. Alors même quand il s'agit de travaux plus abstraits, comme par exemple dans le secteur tertiaire aujourd'hui, où le travail ne porte plus sur des matériaux comme le bois, le métal, etc., mais sur des programmes ou bien sur des idées, sur des projets, etc., il y a toujours une dimension de destruction, voyez, puisque on modifie le réel, et modifier le réel, ça veut dire qu'il y a un aspect qui va être construit, qui va être formé, et de l'autre côté, il va y avoir des destructions. Vous voyez, par exemple, ça déstabilise une société, ça déstabilise une entreprise. Et donc, nous sommes, surtout aujourd'hui, d'ailleurs, dans un système qui est éminemment instable, vous voyez, qui n'arrive jamais à trouver son point d'équilibre. Si je fais une parenthèse, c'est la raison pour laquelle on peut penser que ce qu'on appelle la crise n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un état passager, mais un état désormais permanent de notre existence. Vous voyez ? La crise, ce n'est pas, à la différence de ce que ce terme signifie en maladie, dans le domaine médical, puisque c'est l'origine du terme. La crise, c'est un moyen, enfin, c'est un passage très éphémère au cours duquel l'individu, ou bien va voir sa maladie aggravée jusqu'à la mort, ou bien va retrouver sa bonne santé. En économie, dans l'histoire, aujourd'hui, c'est très différent. On peut imaginer un état de crise permanent, voyez, parce que le système capitaliste d'aujourd'hui est un système qui est incapable, à la différence des systèmes antérieurs, comme le système féodal, c'est un système qui est incapable de trouver un point d'équilibre. Puisque, en effet, on voit très bien comment, quand une bulle financière éclate, eh bien, il va y avoir une autre bulle qui va se reformer très rapidement à la suite, et puis sans fin. Donc, Hegel disait, le rapport négatif à l'objet devient forme de cet objet même. Il devient quelque chose de permanent, puisque justement à l'égard du travailleur, l'objet a une indépendance. C'est ça aussi ce qui est formateur dans le travail, c'est que ce que je fais vient de moi et en même temps est indépendant de moi. C'est-à-dire que ça a une existence objective. Je ne suis pas enfermé en moi-même, je ne suis pas prisonnier de moi-même. Je fais quelque chose qui a une traduction dans la réalité. Je transforme les autres, les choses, le monde, même si c'est un petit niveau, un niveau très modeste. Il y a toujours dans le travail cette objectivité de la transformation. Et ce qui fait que l'individu qui, dans ce travail, il peut se reconnaître comme étant le responsable. Vous voyez, la fierté, elle s'exprime de la manière la plus immédiate comme « c'est moi qui ai fait cela ». C'est-à-dire l'idée que sans moi, cette chose-là n'aurait pas été faite. Voyez, c'est peut-être cela le premier degré, voyez, de la fierté, c'est-à-dire la conscience que c'est vraiment nous qui avons fait cela. Ce sentiment de fierté, que ce soit à ses propres yeux ou aux yeux des autres, souvent les choses vont de pair, mais il y a des gens qui peuvent être fiers simplement, même s'ils n'ont pas en tête le regard d'autrui. On le reverra à travers le beau texte de Peggy que je vais vous citer. Mais cette fierté, aux yeux des autres et à ses propres yeux, c'est un sentiment qui est par définition valorisant. Et les sentiments valorisants ont toujours un effet d'entraînement positif. Je fais ici une parenthèse, c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans les horoscopes, il n'y a jamais de mauvaises nouvelles. Imaginez, par exemple, dans une journée, il y a des journaux qui ont des horoscopes. Dans une journée, malheureusement, puisqu'il y a 12 signes du zodiaque, il y a un 12e, parmi les morts, il y a eu un 12e de cancer, un 12e de capricorne, un 12e de bélier, un 12e de, en gros, un 12e de vierge, un 12e de sagittaire. Et puis l'horoscope dit, jour de chance pour vous, ou tentez votre chance, saisissez l'occasion, etc. Malheureusement, ce jour-là, vous avez des milliers de gens qui tombent malades, à qui il arrive une tuile épouvantable, etc. Mais on ne le dira jamais, ça. On dira pas, dans un horoscope, vous allez tout perdre, vous allez avoir un accident grave, etc. Statistiquement, c'est ce qui se passe, bien entendu. Mais pourquoi cela, en fait? Bon, c'est pas simplement, si vous voulez, pour flatter les gens, c'est qu'on sait très bien que, autant, si vous voulez, les annonces positives donnent aux individus une capacité d'agir positivement, autant les annonces négatives ont un effet complètement inverse. Si vous dites à quelqu'un qui est un peu fragile psychologiquement, qui est superstitieux, faites très attention, aujourd'hui vous allez vous tordre la cheville, voyez, il va faire tellement attention dès qu'il va descendre une marche, etc., que le risque qu'il se torde réellement la cheville va être très grand, alors que ce risque-là était quasiment nul si on ne lui avait rien dit. Mais inversement, quand vous dites, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le droit civil, le droit pénal sanctionne l'insulte, l'injure. Après tout, on pourrait dire que c'est des mots. Mais pourquoi l'insulte et l'injure sont-ils aujourd'hui condamnés par notre droit? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des mots qui blessent, il y a des mots qui fragilisent, il y a des mots qui détruisent les individus. Donc, si les paroles ont un tel impact, il faut bien considérer que si on a le choix, il vaut mieux encore dire des paroles positives, même si elles ne sont pas tout à fait justes, plutôt que des paroles négatives. Donc, la fierté est un sentiment valorisant qui a un effet, évidemment, bénéfique, un effet d'entraînement positif, parce que si je travaille bien, si mon travail est bien fait, j'en éprouve de la fierté. Mais la fierté que j'éprouve constitue pour moi une motivation supplémentaire pour bien faire. Donc, il y a là un cercle qu'on peut dire vertueux. Voyez. Inversement, il y a le cercle inverse qui est le cercle de la honte. Quel est le sentiment, quel est l'affect qui est le contraire de la fierté? C'est la honte. La honte, ça s'exprime par « je n'aurais pas voulu faire cela », « je n'aurais pas dû faire cela », ou bien « cela ne me ressemble pas », ou bien « je ne reconnais pas, je ne me reconnais pas dans ce que j'ai fait », « je ne me reconnais pas dans ce qu'on a dit que j'ai fait », etc. C'est ça la honte, ne pas se reconnaître. Être fier, c'est se reconnaître. Être honteux, c'est ne pas se reconnaître. Alors, on voit très bien que, étant donné que la fierté a un effet d'entraînement positif, la honte, elle est d'autant plus calamiteuse qu'elle est prise dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que l'individu qui a honte se dévalorise. En se dévalorisant, il fait encore moins bien ce qu'il faisait, il travaille encore moins bien, et donc ça lui donne un motif supplémentaire d'avoir honte. Et des cercles, vous savez, il est extrêmement difficile de sortir. D'ailleurs, beaucoup plus difficile de sortir des cercles vicieux ou négatifs que des cercles vertueux. Alors, quels sont les motifs de fierté? Pourquoi sommes-nous fiers du travail que nous faisons? C'est lorsque les valeurs positives, les valeurs idéales sont réalisées dans le travail. Vous savez, alors à cet égard, on peut dire qu'on n'a pas inventé grand-chose. Depuis les Grecs, les grandes valeurs idéales sont à peu près les mêmes. Le beau, le bien, le juste. Alors ce qui a changé, si vous voulez, c'est la conception qu'on peut s'en faire. Nous n'avons pas les mêmes idées sur le juste que les Grecs. Mais on ne peut pas imaginer, si vous voulez, une humanité future qui arriverait à trouver d'autres valeurs idéales futures qui seraient totalement étrangères à cela. Donc, tant qu'on reste dans un cadre humain, on peut se dire que ces grandes valeurs, telles qu'on les voit dans les religions, telles qu'on les voit dans les philosophies ou les différentes traditions de sagesse, ce sont à peu près les mêmes. Vous voyez, le beau, le bien, le juste. La fierté, il y a dans le travail une dimension de création. Et la fierté, c'est une sorte de joie. Voyez. La joie étant lui, elle-même le sentiment que nous avons d'avoir fait quelque chose de bien. Il y a dans la joie quelque chose qui est producteur, vous voyez. C'est une différence que l'on peut faire avec le plaisir. Le plaisir peut être purement consommateur, vous voyez. J'achète de la nourriture, de la bonne nourriture, je la consomme, j'éprouve du plaisir. Donc je suis finalement dans une situation de consommateur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi-même qui ai fabriqué la nourriture que je mange. En revanche, celui qui a fabriqué cette bonne nourriture, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a fabriqué un bon Saint-Nectaire ou quelqu'un qui a fabriqué un bon chocolat, etc., lui, il peut éprouver de la joie, au sens qu'il reconnaît que ce qu'il fait est bien fait et que ce qui est bien fait, ce n'est pas simplement bien fait pour lui, c'est aussi bien fait pour beaucoup d'autres et même idéalement pour tous les autres. Donc la fierté, il y a une dimension de création, vous voyez, une dimension de joie, de pouvoir se dire « grâce à moi », voyez. Alors que la honte, c'est l'inverse, c'est « à cause de moi ». À cause de moi, c'est quand on déplore quelque chose. Grâce à moi, au contraire, c'est quand on se félicite de quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, pourtant, cette fierté, ce n'est pas de la vanité, parce que la vanité est égoïste. Et la fierté, je crois qu'elle n'est jamais égoïste. Elle est personnelle, mais je crois qu'il faut faire une distinction forte entre les deux. Elle est toujours personnelle. Nous avons vu tout à l'heure que même quand on est fier de quelqu'un d'autre que soi, finalement c'est un sentiment personnel, puisqu'on a une relation affective avec l'autre, notre enfant ou bien notre compatriote ou notre co-religionnaire, etc. Enfin, quelqu'un qui a un lien affectif fort avec soi. Donc, mais la fierté, elle n'est jamais égoïste, et c'est en cela qu'elle est très différente de la vanité. La vanité, elle est toujours égoïste. Quand on éprouve de la vanité, c'est toujours par rapport à soi. Et donc c'est un soi qui est enfermé dans lui-même. Alors que le fier, quelqu'un qui est fier de son travail, c'est quelqu'un, même quand il est tout seul, il y a de façon potentielle, virtuelle, la communauté des autres autour de lui. Voyez. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui doit pouvoir se dire, quelqu'un d'objectif, honnête intellectuellement et moralement, eh bien, il doit avoir la même idée que moi. Ce que j'ai fait, c'est bien. Ce que j'ai fait, c'est bien fait. Donc, dans la fierté, il y a un appel à l'autre. Mais un autre qui est là comme témoin, et pas simplement un autre dont on suscite l'envie. Là, c'est le cas de la vanité. Quelqu'un qui a de la vanité, c'est quelqu'un qui cherche l'envie de l'autre. Il désire que l'autre l'envie, vous voyez. Ça, c'est typique de la vanité. Alors que quelqu'un qui est fier, il ne recherche pas l'envie de l'autre. Il recherche plutôt l'admiration. Et l'admiration, c'est un sentiment qui est rigoureusement antinomique, contraire au sentiment d'envie. Parce que dans l'envie, en effet, je suis dans la tristesse de voir que quelqu'un possède ce que je ne possède pas, alors que dans l'admiration, je suis dans la joie de voir qu'il y a quelque chose de supérieur à moi. Voyez. Et ça, c'est très important, ce sentiment d'admiration, qui est d'ailleurs aujourd'hui très fortement menacé et qui, pour cette raison-là, d'ailleurs, a besoin d'être cultivé. Voyez, cultivé presque au sens, on dirait, d'une plante fragile qui a besoin d'être cultivée. Nous sommes dans un monde qui laisse de moins en moins de place au sentiment de l'admiration et de plus en plus de place, malheureusement, au sentiment d'envie. Vous voyez, cet appel à l'autre, on pourrait presque dire, dans la fierté, l'appel à témoin. Voyez, mais évidemment, dans un contexte qui n'est pas celui des enquêtes judiciaires ou policières. Voyez. Dans la création, dans le travail, il y a toujours, évidemment, dans le travail que l'on fait, une dimension de répétition, pas seulement de création. Il n'y a que les artistes, vous voyez, qui ont ce privilège extraordinaire de pouvoir presque toujours créer. On n'en demande pas tant. Hein, on n'en demande pas tant. Et donc, on sait très bien que dans le travail, il y a une grande dimension de répétition en même temps que de création. Mais sans doute, plutôt que de répétition, conviendrait-il de mieux de parler de reprise. Parce que dans le travail, même un travail qui est assez mécanique, assez machinal, assez habituel, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours un imprévu. Et cet imprévu nous place devant un défi, imaginer des solutions, trouver des moyens de résoudre le problème. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas du tout qu'on pourra un jour informatiser la totalité du travail humain. C'est-à-dire qu'en fait, imaginer qu'on puisse mécaniser ou informatiser la totalité du travail, c'est justement imaginer que le travail soit purement répétitif. Vous voyez, on peut mécaniser ce qui est répétitif, comme par exemple, ce qui est très bien mécanisé, c'est le calcul. Vous voyez, donc on construit des ordinateurs capables de calculer, qui ont une puissance de calcul extraordinaire, des milliards et des milliards d'opérations à la seconde, parce que le calcul est une opération qui est purement mécanique. Mais quelqu'un, même qui fait un travail, disons, de maintenance, de manœuvre, un travail, disons, très humble, il est toujours, si vous voulez, confronté à des situations qui sont, alors pas franchement nouvelles, pas extraordinaires, mais il y a toujours un petit quelque chose qui déraille, un petit quelque chose qui est inhabituel et qui demande une certaine improvisation, une certaine réactivité. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que, en fait, contrairement à ce que certains disent, le travail ne sera jamais complètement remplacé par les machines. Parce que justement cette dimension d'adaptabilité, de flexibilité, d'improvisation qui fait partie justement du travail, c'est une dimension qui sera sans doute jamais accomplie par les machines. Imaginez des solutions. La fierté existe quand le travail accompli est quelque chose d'intelligent. Alors vous savez que Marx, que j'ai évoqué tout à l'heure, a théorisé ce qu'il appelait l'aliénation, qui est un terme qui vient du droit d'abord. L'aliénation d'un bien, c'est d'ailleurs un terme qui existe encore. Aliéner un bien, ça veut dire le céder, le donner ou le vendre, c'est-à-dire s'en déposséder, hein, c'est cela, aliéner un bien. Et puis du domaine du droit, le terme d'aliénation est passé au domaine psychologique, psychiatrique. L'asile d'aliénés, les aliénés, ce sont ceux qui sont dépossédés d'eux-mêmes, les fous. Et puis alors, Marx a repris ce terme dans un sens qui est un sens philosophique ou économique, à propos de la situation du travail dans la grande industrie, où l'ouvrier est, au départ, a priori, en amont, dépossédé du fruit de son travail, à la différence de l'artisan. Quand un artisan commence à travailler, à fabriquer un sabot, eh bien, dès le départ, il est le maître, non seulement de son travail, mais de l'objet du fruit de son travail. Un ouvrier qui commence son travail dans une usine, c'est quelqu'un qui, à aucun moment, n'est le maître, le propriétaire de ce qu'il fait. On a acheté ce que Marx appelle sa force de travail, en termes de temps, hein, on le paye pour une heure, pour 10 heures, pour un mois de travail, et à aucun moment il a un rapport humain avec ce qu'il fait. C'est cela que Marx appelle l'aliénation. L'aliénation possède une double dimension. En fait, elle est double, l'aliénation. D'une part, c'est le produit du travail qui est devenu étranger au travailleur. J'ai entendu dire, j'ai du mal à le croire, mais bon, il paraît que c'est vrai. J'ai entendu dire que dans certaines industries, dans certaines usines, il y a des gens qui ne savent même pas, en fait, quel est l'objet exactement qu'ils fabriquent. voyez. C'est-à-dire que c'est tellement complexe. On peut imaginer, par exemple, je sais pas, un projet comme l'Airbus. Hein, vous avez plusieurs lieux d'assemblage et d'usinage des pièces. Bien, il paraît, en fait, je n'ai pas d'expérience directe, j'ai lu ça dans les journaux peut-être, qu'il y a des gens qui ne savent même pas, vous voyez, ce qu'ils font. Voyez, au point qu'ils ne savent même pas, si vous voulez, à quoi sert le travail qu'ils font. Alors là, nous sommes vraiment dans la caricature de ce que Marx appelait l'aliénation, parce que, vous voyez, l'objet est tellement étranger à celui qui le fait, que celui qui le fait ne le connaît même pas. Il ne connaît même pas sa forme, ne connaît pas son nom. Ça, c'est, disons, la première dimension de l'aliénation. C'est l'objet qui est aliéné par rapport au travailleur. Mais en fait, la seconde aliénation, ou la deuxième dimension, c'est que le travailleur lui-même est devenu étranger à lui-même. Voyez, il est devenu étranger à lui-même puisqu'il ne peut plus se reconnaître dans son travail. Or, le travail, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la place de quelqu'un d'autre quand on y songe. Voyez, il y a quelque chose de profondément barbare dans l'aliénation parce que, bien sûr, je peux faire le même travail que quelqu'un. Mais quand on y réfléchit, on ne peut pas travailler à la place de quelqu'un. Parce que travailler, ça veut dire d'abord penser et puis accomplir certains gestes. Mais je ne peux pas penser à la place de quelqu'un et accomplir les gestes de quelqu'un. Je peux faire effectivement ce que quelqu'un pourrait faire, mais c'est autre chose, voyez. D'où le caractère qui apparaît proprement monstrueux aux yeux de Marx. Hein, caractère monstrueux, donc inhumain. Hein, inhumain de cette aliénation, et cette inhumanité ou barbarie est à la mesure de l'humanité du travail. Le travail peut devenir d'autant plus inhumain que normalement il est la chose la plus humaine qui soit, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, il nous est difficile de dire que les animaux travaillent, voyez. Et donc si le travail est proprement humain, lorsque l'homme est dépossédé de son travail, il est littéralement dépossédé de lui-même. Alors, je voudrais vous lire un texte qui est assez long, hein, je m'excuse de la longueur, mais qui est tellement fort, intense et beau, que je ne peux pas résister à cette tentation, ce plaisir de vous lire ce texte. C'est un texte que Charles Péguy a écrit juste avant de mourir, l'année d'avant. Il ne savait pas qu'il allait mourir si jeune. Vous savez qu'il est mort le deuxième ou troisième jour de la guerre de 14, troisième jour de bataille, je crois, quelque chose comme ça. Et il a écrit donc en 1913, juste donc l'année d'avant sa mort, un texte qui s'appelle « L'argent ». Et dans ce texte, il dénonce violemment la société bourgeoise. Et dans ce texte « L'argent », on voit, il y a des passages qui sont d'une actualité absolument incroyable. Alors c'est un livre qu'on lit plus beaucoup, un auteur qu'on ne lit plus beaucoup aussi, mais vous allez voir en effet comment ce passage qui concerne directement la fierté dans le travail est à la fois une apologie de cette fierté dans le travail et en même temps l'expression d'une crainte. Donc vous voyez que c'est une crainte qui n'est pas d'aujourd'hui. Il y a 100 ans, hein, donc vous voyez l'argent en 1913, déjà Charles Péguy craignait que cette valeur qu'il croyait être, qu'il pensait être typiquement française, hein, il dit ça, cette valeur qui est la fierté dans le travail risquerait de se trouver détruite ou du moins amoindrie par les mécanismes, disons, de l'économie moderne. Donc je vais vous lire ce texte, encore une fois je m'excuse s'il est un peu long, mais vous allez voir, il est à travers un style qui est un style très répétitif, hein, mais qui est un texte assez envoûtant et assez fort. Nous croira-t-on, nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. On ne pensait qu'à travailler. Nous avons connu des ouvriers qui, le matin, ne pensaient qu'à travailler. Ils se levaient le matin, et à quelle heure? Et ils chantaient à l'idée qu'ils partaient travailler. À 11 heures, ils chantaient en allant à la soupe. En somme, c'est toujours du Hugo. C'est toujours à Hugo qu'il en faut revenir. Ils allaient, ils chantaient. Travailler était leur joie même et la racine profonde de leur être, et la raison de leur être. Et il y avait un honneur incroyable du travail, le plus beau de tous les honneurs, le plus chrétien, le seul peut-être qui se tienne debout. C'est quand même incroyable quand on pense à un écrivain chrétien comme Charles Péguy, qui nous dit que l'honneur du travail, c'est le plus chrétien de tous les honneurs, et il dit le seul peut-être qui tienne debout. C'est-à-dire, sous-entendu, les autres ne sont que relatifs par rapport à lui. Alors Péguy ajoute, « Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui, au Moyen Âge, régissait la main et le cœur. C'est le même conservé intact en dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien fait, poussé, maintenu jusqu'à ses plus extrêmes exigences. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Un artisan d'aujourd'hui n'est plus un artisan. Dans ce bel honneur de métier convergeaient tous les plus beaux, tous les plus nobles sentiments. Une dignité, une fierté. Ne jamais rien demander à personne, disait-il. Voilà dans quelles idées nous avons été élevés. Car demander du travail, ce n'était pas demander. C'était le plus normalement du monde, le plus naturellement réclamé, pas même réclamé. C'était se mettre à sa place dans un atelier. C'était, dans une cité laborieuse, se mettre tranquillement à la place de travail qui vous attendait. Un ouvrier de ce temps-là ne savait pas ce que c'est que quémander. C'est la bourgeoisie qui quémande. C'est la bourgeoisie qui, les faisant bourgeois, leur a appris à quémander. Aujourd'hui, dans cette insolence même et dans cette brutalité, dans cette sorte d'incohérence avec laquelle ils apportent leurs revendications, il est très facile de sentir cette honte sourde d'être forcé de demander, d'avoir été amené par l'événement de l'histoire économique à quémander. Exiger, c'est encore demander, c'est encore servir. Ces ouvriers ne servaient pas, ils travaillaient, ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre d'un honneur. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. C'était entendu, c'était un primat. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire ou moyennant un salaire. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les clients du patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Une tradition venue, montée du plus profond de la race, une histoire, un absolu, un honneur voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Et c'est encore, c'est moi qui en cherche si long, moi dégénéré. Pour eux, chez eux, il n'y avait pas l'ombre d'une réflexion. Le travail était là, on travaillait bien. Il ne s'agit pas d'être vu ou pas vu, c'était l'être même du travail qui devait être bien fait. Et un sentiment incroyablement profond de ce que nous nommons aujourd'hui l'honneur du sport, mais en ce temps-là répandu partout. Non seulement l'idée de faire rendre le mieux, mais l'idée dans le mieux, dans le bien, de faire rendre le plus. Non seulement à qui ferait le mieux, mais à qui en ferait le plus. C'était un plus beau sport continuel qui était de toutes les heures dont la vie même a été pénétrée. Tisser, un dégoût sans fond pour l'ouvrage mal fait, un mépris plus que de grand seigneur pour celui qui eût mal travaillé. Mais l'idée ne leur en venait même pas. Tous les honneurs convergeaient en cet honneur, une décence et une finesse de langage, un respect au foyer, un sens du respect, de tous les respects, de l'être même du respect, une cérémonie pour ainsi dire constante. D'ailleurs, le foyer se confondait encore très souvent avec l'atelier, et l'honneur du foyer et l'honneur de l'atelier étaient le même honneur. C'était l'honneur du même lieu, c'était l'honneur du même feu. Qu'est-ce que tout cela est devenu ? Tout était un rythme et un rite et une cérémonie depuis le petit lever. Vous voyez que ce qu'il y a d'assez frappant dans ce texte, bon, il y a des parties qui sont évidemment obsolètes, un peu vieillies, mais c'est la crainte toute nouvelle et qui est actuelle, que cette grande valeur, précisément cet honneur, comme dit Peggy, mais aussi l'utilise, vous voyez, dans ce texte que je vous ai lu, le terme de fierté, que cela risque d'être menacé par tout un ensemble de forces qui iraient, en quelque sorte, contre, précisément, cette vertu. J'ai fait allusion dans mon introduction au fait qu'aujourd'hui, nous assistons à une transformation assez générale du métier en emploi, et que lorsque le travail passe de la forme métier à la forme emploi, il est clair effectivement que la fierté a beaucoup plus de mal à être exprimée, parce que autant dans le métier nous nous reconnaissons nous-mêmes, puisque le métier c'est nous-mêmes dans ce que nous avons de plus objectif aux yeux des autres, aux yeux de la société et aux yeux de nous-mêmes, l'emploi, eh bien malgré l'emploi, comme le nom l'indique, c'est un usage. On est employé à, donc on n'est pas réellement impliqué dans un emploi comme on est impliqué dans un métier. Et comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, un emploi, c'est quelque chose qui peut faire signe vers sa disparition quand on est sans emploi, alors qu'on n'était jamais sans métier. Aujourd'hui, dans beaucoup de professions, et c'est assez frappant quand on lit les témoignages ou les interviews, il n'est presque jamais question de plaisir, de satisfaction. Et les rapports aliénés au travail tendent à gagner de plus en plus. Et ces rapports aliénés au travail, ils se manifestent d'ailleurs de deux manières contradictoires. Il y a une forme plus connue qui s'appelle l'absentéisme, quelqu'un qui est évidemment dégoûté par le travail qu'il a, il est tenté par la fuite. Ce comportement de fuite systématique, c'est ce qu'on appelle l'absentéisme. Mais il y a également, disons, une expression qui est inverse de la précédente, mais qui est également désastreuse. C'est ce qu'on appelle, d'un terme moins connu, le présentéisme. C'est-à-dire qu'on vient au travail à l'heure, on n'est pas en retard, on fait apparemment son travail, mais on n'est pas impliqué. Si bien qu'en fait, ce présentéisme représente pour les entreprises, d'ailleurs, un manque à gagner qui est au moins aussi important que l'absentéisme dont on parle davantage. Et puis par ailleurs, il y a l'explosion de tout un ensemble de pathologies, de nombreuses pathologies, signe que la fierté a disparu. Il est clair en effet que celui qui est fier de son travail, eh bien, n'est pas victime, même potentielle, de ces pathologies, puisqu'en effet, lorsqu'il y a pathologie, par exemple le stress, ce qu'on appelle le burn-out, etc., c'est le signe que la fierté a disparu. Que, en fait, ce sentiment très fort qui nous soutient, encore une fois, ce n'est pas une question de statut social. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que la fierté n'était pas la vanité. Il y avait la fierté, vous voyez, l'exemple de Peggy, du rempailleur de chaises. Vous voyez, le métier manuel le plus humble. Vous voyez, quelqu'un qui fait un bâton de chaise, un barreau de chaise, il fait un travail manuel extrêmement pauvre et humble. Et en même temps, nous dit Peggy, cet homme-là pouvait ressentir une extraordinaire fierté, au même titre que ceux qui taillaient les plus belles pierres pour les cathédrales. Or, il est vrai qu'aujourd'hui, dans des secteurs considérables de la vie économique, il est extrêmement difficile de trouver, en effet, des emplois, des travaux qui puissent donner, disons, ce sentiment de fierté aussi fort que celui qu'évoquait Peggy. Quand il y a pathologie de travail, il y a le signe nécessaire que la fierté a disparu, et même, on pourrait dire, plus grave, qu'elle est devenue impossible. Voyez. Yves Clos, CLOT, a écrit deux ouvrages récents, un en 2010 et un en 2014 sur le travail. Le 2010, c'est le travail à cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux. C'est paru chez la Découverte. Et puis un qui est plus récent, donc il a été publié cette année, le travail peut-il devenir supportable. Et Yves Clos parle de professionnalisme dégradé. C'est-à-dire qu'il constate en effet que dans de nombreux secteurs d'activité, il y a un professionnalisme certain, objectif, technique, et en même temps, ce professionnalisme est dégradé parce que les individus ne peuvent pas être à la hauteur de leurs compétences. Il est grave lorsque la performance, c'est-à-dire ce que l'on fait, soit à ce point décalée par rapport à la compétence, c'est-à-dire ce pourquoi on est fait, ou bien ce que l'on pourrait faire. Vous voyez, quand il y a une trop grosse contradiction entre la compétence et la performance, cela ne peut qu'engendrer une certaine souffrance. Or, il n'y a pas de bien-être sans un certain bien-faire. Vous voyez. Donc, la fierté dans le travail, tradition française, elle se trouve aujourd'hui malmenée. Elle est malmenée à la fois par le système bourgeois, comme disait Peggy, qui est le système capitaliste, et également par des techniques nouvelles de direction d'entreprise, par ce qu'on appelle le néo-management, qui évidemment, supprime en partie les conditions favorables pour l'émergence de cette fierté. Il y a en France, vous savez, une tradition égalitariste qui nous vient de la Révolution française, et cette tradition égalitariste, en effet, a tendance à considérer que ceux qui font, ce sont ceux qui savent réellement. Si bien qu'en fait, en France, ce qui fait échec, dans une certaine mesure, à une politique trop brutale du néo-management, ou du moins qui la relativise par rapport à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, où la tradition égalitariste n'est pas si forte, il y a en France cette idée, en fait, que ceux qui sont doués du plus grand savoir par rapport au travail, ce sont ceux qui font le travail eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, que ce sont ceux qui font, qui agissent, qui travaillent, qui savent le mieux. Et que par conséquent, ceux qui décident, c'est-à-dire les technocrates ou les experts, ceux donc qui ne font pas directement, eh bien ceux-là, ils sont en dehors du savoir et de la connaissance. Donc en fait, il y a un doute sur la légitimité même du pouvoir d'entreprise, qui n'est pas ce doute qui n'est pas aussi fort dans les pays anglo-saxons, où on peut dire que l'idéologie technocratique l'a emporté totalement. Et donc, il est vrai qu'à partir du moment où on estime que le seul savoir est détenu par les décideurs, c'est-à-dire que par ceux qui ont fait les programmes, ceux qui dirigent, etc., on s'aperçoit qu'il y a un formidable, évidemment, gaspillage d'intelligence et d'énergie. Mais je crois, en fait, qu'à cet égard, il y a des résistances locales, et même plus que locales, en France, qui font que, finalement, ces valeurs qui sont indispensable pour l'émergence de ce sentiment de fierté, ces valeurs, aujourd'hui, fort heureusement, n'ont pas complètement disparu, puisqu'en effet, le néo-management, qui nous vient d'outre-Atlantique, des États-Unis, ne fonctionne réellement, si vous voulez, que dans les très, très grosses entreprises, celles qui ont déjà une structure mondialisée ou internationale. Donc, en fait, vous voyez, le sous-titre de l'intervention, une valeur indispensable, c'est une valeur effectivement qui aujourd'hui est menacée, mais vous voyez que cette menace, elle ne date pas d'aujourd'hui, puisque Peggy s'en faisait déjà l'écho. Et quant au caractère indispensable de cette valeur, j'espère vous l'avoir fait comprendre, puisque de fait, on ne peut pas imaginer un être humain qui vive humainement et qui ne soit pas au moins, disons, à minima, vous voyez, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais au moins à minima, fier de ce qu'il fait, ou du moins pas honteux de ce qu'il fait, parce que peut-être que le plus grave, justement, c'est inversement, que de plus en plus d'individus aujourd'hui sont mis en situation d'avoir à faire des choses dont ils sont honteux. Vous voyez, ça c'est gravissime. Voilà, donc c'est rapidement, synthétiquement, ce que j'avais à dire sur cette grande question. Donc, bien entendu, c'est une question qui appelle un très grand nombre d'autres questions. Je suis tout à fait prêt à entendre vos objections, les précisions que vous auriez à me demander, etc. Voilà, je vous remercie.